Nous retrouvons dans cette émission Pierre-Lucas Benoît, que nous avons interviewé dans notre dernière des Vicinales. Il nous parle de sa formation au Québec. Nous vous rappelons qu'il veut devenir artiste circassien. Nous lui avons demandé s'il excluait de pratiquer certaines activités du fait de leur dangerosité et donc du risque qu'elles pouvaient représenter.
Moi non, parce que je suis encore à mon avis un peu inconscient. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'artistes qui travaillent actuellement notamment, qui renoncent à faire du ski par exemple, qui renoncent à faire de la motocross ou des choses comme ça, qui représentent effectivement un risque. Après moi pour l'instant j'ai pas encore eu à me limiter, parce que je fais pas du ski, parce que je fais pas grand chose à risque autre que le cirque. Mais c'est vrai que cette question vient, et d'autant plus une fois qu'on sort d'école, pour quand on est en train de travailler, quoi, pour pouvoir finir son contrat, parce que si tu fais pas ton contrat, tu t'es pas payé, et donc là après... C'est un autre système.
Pour un numéro, combien de temps dure la préparation avant d'apparaître devant le public ?
En termes d'échauffement avant le spectacle ou de préparation d'un numéro en globalité ?
Non, avant le spectacle.
Ben ça dépend de chaque personne, mais je sais que nous, on ne fait jamais notre numéro avant d'y aller. On l'a toujours répété avant. Et, donc le jour J, on évite de le faire. C'est un échauffement physique. Je dirais entre une heure et demie.
D'accord.
De préparation physique et psychologique, ouais, pour rentrer.
Parle-nous à présent de l'endroit où tu vis, dans quelle ville tu...
Alors je vis dans la ville de Québec, donc au Québec, mais à Québec. dans un arrondissement assez universitaire. L'endroit où je vis, j'ai un petit appartement fort sympathique avec des voisins très sympathiques aussi, dans lequel je passe beaucoup de temps. Après, changer de... Donc là, je suis arrivé au Québec il y a 4 mois. Donc, changer comme ça de mode de vie, j'ai grandi à Chartres. Je suis né à Chartres, j'ai grandi à Chartres. Je suis parti un petit peu pour le cirque à 15 ans, mais toujours en France. Changer comme ça de continent, c'est vraiment violent. Enfin, sur le coup, il y a vraiment une grosse... Enfin, personnellement, j'ai eu une grosse phase d'adaptation. Je pense que j'y suis encore. À juste déjà changer toutes ses habitudes, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne pareil dans les rues, dans les magasins, dans les administrations, dans tout ça. Et puis après, c'est sûr qu'au Québec, il y a un climat légèrement différent. On s'y habitue, mais il faut s'y préparer, il faut s'y faire, il faut l'accepter, il faut s'équiper. Et puis, il y a tout cet aspect relationnel où je suis arrivé, donc j'étais avec mon voltigeur. Mais je veux dire, en France, je sais, quand j'ai un problème, je sais où je vais le régler, je sais où aller chercher, je connais la valeur des choses, je connais plein de monde. Là-bas, c'est plus rien, quoi. Donc, il y a tout ça à refaire, qui est assez dur au début. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant.
Et ça y est, tu as rencontré plein de gens ?
C'est long à se faire, mais effectivement, on rencontre beaucoup de monde, surtout dans une école comme celle de l'école de cirque de Québec, qui brasse énormément d'artistes, énormément d'élèves. On rencontre beaucoup de monde,
Et tout le monde est assez solidaire ?
Oui, je pense que dans le cirque, je ne sais pas comment c'est vraiment ailleurs, mais dans le cirque, il y a quand même cette idée assez solidaire. En tout cas, dans les deux écoles que j'ai faites, même les trois, je dirais, dans mon école loisirs à Chartres que j'ai fait, à Châtellerault et à Québec, il y a vraiment cet aspect d'entraide, de solidarité, d'émulation, qui fait qu'on est toujours dans un cocon familial, qui donne une zone de confort, qui nous laisse la liberté d'essayer, de se tromper, aussi de soutenir dans les moments difficiles, et puis de se motiver physiquement et psychologiquement à travailler beaucoup pour ce qu'on fait.
Le Québec est-il devenu totalement américain ou bien est-il à garde-garde? Ou bien a-t-il gardé un peu de son passé français ? En clair, quelle langue parles-tu au quotidien ?
Je parle au quotidien français, et heureusement, je pense pour moi. Après, dans une école de cirque, c'est toutes les langues. Enfin, il y en a du monde, il y en a qui parlent italien, portugais, espagnol, anglais, français. Donc, la langue officielle à l'école, c'est le français, parce que l'école, les cours sont dispensés en français. Et sauf que tout le monde parle anglais quand même. Alors, on parle pas anglais parce que moi je sais pas parler anglais. Les cours sont donnés en français, mais tout le monde parle anglais. Sauf que comme tout le monde parle aussi français, on parle français. Beaucoup.
D'accord.
Mais c'est un français étranger, quoi. Tout le monde parle un peu comme il peut. Et
c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a dans ton école encore des gens qui appartiennent au monde traditionnel du cirque, des gens qui sont dans le cirque par héritage, un peu?
Je pense pas qu'il y ait vraiment d'enfants qui viennent de familles de cirque, qui ont hérité de tout ça. Après, il y a un style de travail qui est quand même assez différent entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain, nouveau cirque, il y a plein de noms. Donc voilà, il y a des élèves qui travaillent avec des techniques traditionnelles. Après, les enfants de cirque, il y en a qui font des écoles, mais beaucoup quand même apprennent dans leur cirque.
Ça existe encore?
C'est de plus en plus rare, surtout en France, mais ça existe encore effectivement.
On sait que les sportifs de haut niveau passent difficilement le cap des 30 ans. Dans le cirque, on peut, je crois, durer un peu plus longtemps. As-tu pensé à ce moment où ton corps ne pourra plus suivre? Et que te vois-tu faire à ce moment-là?
Déjà, je vais essayer de faire en sorte que mon corps suive le plus longtemps possible. Oui, je pense que ça peut aller au-delà de 30 ans. Je pense et j'espère. Et puis, ma carrière, elle va forcément évoluer. Je pense que je vais commencer en sortant un numéro, que je vais essayer de tourner le plus possible dans plein de cirques, en faisant des spectacles différents, en ayant des rôles polyvalents pour faire de l'acrobatie, de la voltige, le tourner dans le monde et puis le faire le plus possible. Après, effectivement, mon corps, il va se fatiguer, c'est sûr. De là, je pense que je pourrais déjà réduire mon rythme, prendre après des rôles un petit peu plus secondaires, plus tranquilles, favoriser la musique.
Voilà, tu pourras faire de la musique, par exemple.
Voilà, et quand mon corps ne pourra plus du tout, je ne sais vraiment pas ce que je ferai, j'y suis pas encore, mais peut-être que je travaillerai dans la création, dans la mise en scène ou dans la production de spectacles, je ne sais pas. Peut-être que je ferai des cours aussi, l'enseignement. Honnêtement, pour l'instant, j'y suis vraiment pas encore.
D'accord, ok.
Quand as-tu découvert le cirque, en fait?
Déjà, il y a deux choses. C'est que chez moi, on fait tous de la musique. Et moi, je voulais pas faire comme les autres. Alors, on essayait de me mettre au foot, mais j'aimais pas le foot. Du coup, quand j'avais 7 ans, il y a monsieur Aurélien Falkowska qui a proposé des cours de cirque dans la ville d'où je viens, avec son association de cirque en équilibre. Et ma mère, elle m'a inscrit un peu par dépit, parce qu'il fallait me trouver quelque chose. Et puis finalement, ça a très bien été. J'y suis retourné, je m'y suis inscrit. Et puis, un an et demi plus tard, j'ai fait un premier numéro pour un concours jeune talent, je crois, à Gaby Loisem. Et c'était le début. Après, de là, s'est enchaîné d'autres numéros. Après, en 2010, j'ai jonglé avec un orchestre de musique de rue qui s'appelait Embarcadère, jusqu'en 2015. Et donc, de là, l'expérience de la scène m'a vraiment donné envie de continuer le cirque, de progresser, d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris plein de choses, j'ai eu envie de faire ça et j'ai découvert d'autres choses.
Donc, ton amour du cirque, ton envie de faire d'être artiste de cirque ne te vient pas d'un spectacle que tu aurais vu ou d'un artiste que tu aimerais?
Non, c'est venu vraiment en pratiquant. Par hasard, je me suis retrouvé dans cette école. Il y avait une ambiance sympa. Le défi que ça a amené techniquement, j'aimais bien. Et ce qui m'a vraiment donné envie de continuer et de progresser et de travailler beaucoup, c'est d'avoir fait des spectacles, d'avoir eu l'expérience de la scène. Et puis, en grandissant, j'ai compris aussi après la force que pourrait avoir un artiste, le privilège qu'avait un artiste d'être à un moment donné sur scène, à pouvoir transmettre quelque chose, à pouvoir donner quelque chose, à être au centre de l'attention, ce qui peut être un peu égoïste dit comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment cette fonction aussi de montrer la société, de montrer la vie d'un autre point de vue, soit plus engagé, donc là on prendrait du cirque engagé qui dénoncerait quelque chose, soit d'un point de vue aussi plus émerveillé, de mettre un peu de couleur dans parfois des moments difficiles de la vie, et ou tout simplement d'emmener les gens dans un spectacle, dans quelque chose, de les faire voyager, de les emmener dans une émotion et de leur faire du bien en fait.
Mais est-ce qu'il y a un artiste de cirque que tu admires?
Un artiste précisément, pas forcément. Après, il y a des artistes que j'admire. Surtout des façons de faire, des spectacles assez dénonciateurs que j'aime bien. Après, il y a des compagnies, effectivement, que j'aime beaucoup dans leur pratique, dans leur façon de montrer les choses, dans ce qu'ils apportent sur scène et ce qu'ils partagent avec le public.
Donc, nous savons que tu travailles sur un numéro de Trapèze du Haut. Avez-vous des opportunités de vous produire en public et, ou est-ce que tu as des projets personnels ?
Oui. on a des opportunités de se produire. À Québec, ça existe, de trouver pour des événements corporatifs des dates pour jouer. Après, c'est un milieu qu'on ne connaît pas encore, donc c'est plutôt difficile. Après, sinon, on a joué en France notre numéro plusieurs fois, à plusieurs endroits, à plusieurs occasions. Et après, comme on est en formation, notre numéro est toujours en évolution. Mmh. Donc on va plutôt créer un numéro selon une demande, puisque notre but pour l'instant, c'est d'acquérir des acquis techniques, et c'est pas de tourner un numéro. Donc si on a des demandes ou des opportunités, l'année dernière on a joué pour un cabaret de Noël, c'était une fois dans l'année, on a fait un numéro. Peut-être qu'en juin, on va rejouer notre numéro pour un autre événement. C'est pour prendre un peu d'expérience, pour se confronter à la scène, parce que c'est quand même très plaisant. Mais ce n'est pas notre but premier pour les 3 prochaines années à venir.
Merci infiniment à Pierre-Lucas Benoît d'avoir accepté l'exercice parfois délicat de l'interview. Il s'y est livré avec franchise, talent et une certaine assurance qui nous a beaucoup impressionnés. Nous croisons donc les doigts pour lui, pour qu'il réussisse, et réussisse avant tout sa vie, au sens large et plus complet du terme. Ainsi, en 2019, on peut toujours choisir l'aventure artistique et décider de tenter d'y bâtir un futur. Permettez-moi de prendre cela pour une bonne nouvelle. Rendez-vous au prochain numéro de Les Vicinales sur Radio Grand Ciel. Merci de votre écoute et au revoir.
Au revoir.
Tout s'arrange, pas comme je le croyais.